Voilà comment nous chassons le lion.
Quel courage !
Vous avez vu, vous, des combats d'éléphants ? Vous en avez vu, vous ?
Moi, non, j'en ai jamais vu.
Eh bien, alors, taisez-vous !
Mais que diriez-vous ?
La vie des animaux, quatrième épisode de notre série, La Ferme.
Les vaches ont beau travailler des journées entières, elles maigrissent pas. Mieux, ça leur fait pousser les cils et elles vous aiment. Celles que sont pleines, elles travaillent jusqu'au dernier moment. À peine on y a enlevé le joug, qu'elles pondent un veau superbe, que le marchand voudrait à tout prix emporter dans ses bras. Et plus elles travaillent, plus elles donnent de lait. C'est tout naturel.
Depuis plus de 10 000 ans, les hommes et les animaux ont appris à échanger dans l'élevage. Mais celui-ci, dans les pays occidentaux du moins, connaît une mutation inédite aujourd'hui. Pas seulement dans les effectifs qui avaient déjà connu un apogée au XIXe siècle. Le plus significatif, c'est l'augmentation du rendement individuel. Dans le cas de la vache, c'est inouï. Elle a été transformée géométriquement, morphologiquement, arithmétiquement. Elle est devenue une usine animale, alimentée par une machine alimentaire, logée dans une étable conçue comme une machine à hébiter. Le prix à payer en est une perte de liberté pour les bêtes, mais aussi pour les éleveurs. Les éleveurs devenus maillons dans une chaîne de rationalité économique. Victimes d'évolutions fortes des cours qui provoquent des effets de ciseaux, ils sont la cible des associations de protection des animaux, lesquelles ont l'oreille des médias. Se pensant objet de critiques injustes, les éleveurs sont pris dans beaucoup de contradictions. La pire peut-être. S'ils s'obstinent dans le sentiment, ils sont regardés comme des demeurés qui restent au bord de la route du développement économique. C'est alors chez les bêtes qu'ils retrouvent l'humanité qui leur est enlevée.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec notre compagnon de toute la semaine, Éric Baratet, bonjour.
Bonjour.
Qui dans son innombrable, très riche bibliographie, aujourd'hui produit un titre qui date de 2011 mais qui existe en collection de poche.
Bêtes de somme, des animaux au service des hommes.
L'apogée du 19e siècle, on va commencer à ce moment-là, on va pas raconter plus de 10 000 ans d'élevage. C'est un apogée dans le nombre, mais aussi dans la présence. Si on prend, pour commencer, le cas du cheval qui vous est cher.
Oui, il n'y a jamais eu autant de chevaux en France, mais c'est vrai pour toute l'Europe qu'à la fin du 19e siècle. C'est vraiment l'apogée de la présence chevaline, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Évidemment, on trouve des chevaux de partout, et ces chevaux sont spécialisés pour les services qu'ils doivent rendre. Et à la campagne, notamment, le service le plus important, c'est le trait de la charrue, trait de la charrette. Ce sont des chevaux qui sont beaucoup plus polyvalents en campagne quand même qu'en ville ou que dans les industries.
Les paysans ne choisissent pas nécessairement, grande différence avec l'acteur éleveur habité aujourd'hui par la rationalité économique, le cheval le plus adapté à la situation. Ils choisissent le plus beau, le plus flatteur.
Oui, par exemple, les vignerons dans le long des bords de la Loire à la fin du 19e siècle aiment bien le grand cheval, le beau cheval, qui n'est pas forcément bien adapté à ces vignes. C'est un cheval presque trop grand, trop fort pour le travail qu'on lui demande, mais c'est un cheval prestigieux. Et donc, à l'époque, on fait comme nous faisons maintenant avec nos voitures ou avec nos ordinateurs qui sont souvent surpuissants par rapport à l'usage qu'on en fait.
Ouais. Le paysan produit du cheval paysan et aussi du cheval prolétaire, celui qui tire les barges et les péniches sur les chemins de halage, ou celui qui, on l'a oublié, est là dans les mines.
Alors, les chevaux vont être réquisitionnés, effectivement, pour les mines, pour le halage, dans les années 1820. En fait, ils remplacent les hommes. Il y avait des hommes qui tiraient les péniches et des hommes qui tiraient les chariots. Et on met les chevaux à la place parce qu'ils sont plus forts, ils ont un rendement plus important. Et ces chevaux sont effectivement produits dans les campagnes. Le cheval de mine, c'est le cheval breton, par exemple. C'est lui qui est le plus adapté à ce genre de travail. Ou alors le cheval belge, l'Ardennais. C'est plutôt pour le travail avec les omnibus. Il y a comme ça toute une série de spécialisations, mais de chevaux qui sont effectivement produits dans des régions bien précises.
Je note que vous indiquez souvent, pour caractériser les races de chevaux, une origine géographique.
Oui,
vous
alors,
êtes un vieux géographe ruraliste.
Mais c'est, en même temps, c'est paradoxal, parce que à la fois, on donne des noms géographiques, et en même temps, c'est l'époque où on change la définition de la race. C'est-à-dire, jusqu'au 19e siècle, les paysans pensent la race en termes de géographie. Fait partie d'une race, les animaux qui sont nés dans une région, qui sont fils ou filles de tel animal, et qui appartiennent à tel ou tel paysan de la région. Au 19e siècle, les zootechniciens vont faire adopter la race biologique, c'est-à-dire est de la même race les animaux qui se ressemblent biologiquement et surtout au niveau morphologique, la couleur de la robe, l'allure des cornes, etc.
Ça va donc être un peu la même chose pour la vache que pour le cheval. Alors la vache, elle, ne connaît pas le processus de substitution qui va faire décliner brutalement peut-être le cheval. Enfin, quand je dis brutalement, c'est excessif.
Non, c'est assez brutal pour le cheval, parce que, alors en ville, c'est très brutal en ville, dès les années 1910, avec l'électrification du tramway, avec le développement des camions, etc. En campagne, c'est un peu plus long, parce que dans l'entre-deux-guerres en France, on s'équipe beaucoup en chevaux. Les gens qui n'avaient pas encore de chevaux, qui n'avaient par exemple que des vaches ou des bœufs, vont s'équiper en chevaux dans l'entre-deux-guerres. Mais en Grande-Bretagne, l'entre-deux-guerres, c'est déjà la mécanisation.
La vache, on passe à la vache, Éric Baratet. La vache pour la viande, plus que le cheval, il y avait des boucheries chevalines. La vache pour le lait, avec une demande de lait de plus en plus forte de la part des citadins. Et la vache qui va voir son cheptel s'organiser en race. Alors, je ne suis pas sûr que le son qu'on va entendre maintenant, c'est un pays d'ici de France Culture, avec Marion Thibat, nous éclaircissent particulièrement, parce que dans l'esprit de la journaliste, c'est pas facile, comme pour moi, hein, de distinguer entre les vaches, et dans l'esprit de l'agricultrice de Thiérache, dans l'Aisne, qu'on va entendre, non plus.
Il y a 30 ans, au niveau sélection de la vache, on regardait beaucoup plus la robe que ce qu'elle pouvait produire. C'est-à-dire qu'une vache, il fallait qu'elle soit noire et blanche. Bon. Mais les taches disposées, à certaines façons, c'était deux lignes blanches, toutes noires, une tête bien spéciale. Maintenant, on a des vaches qui sont pratiquement blanches entièrement. Ça, il y a 30 ans, on ne voulait pas les voir. Vous avez trois couleurs. Vous avez la couleur blanche, vous avez la couleur pie bleue, qui est un noir qui tend vers le bleu. Et vous avez la couleur noir et blanche. Et en blanc-bleu, en Belgique, ils ne veulent pas voir de noir et blanche.
Alors, la blanc-bleu, noir et blanche, en quoi diffère-t-elle de la frisonne noir et blanche ?
La conformation. C'est des bêtes, vous avez des culs qui font 50 cm de plus que les nôtres.
Elles sont difformes ?
Oh oui, nous on trouve qu'elles sont difformes. Bon, ceux qui les élèvent trouvent qu'elles sont belles, qu'est-ce que vous voulez ? Ça...
Vous avez été élevée au milieu des vaches ?
Je n'ai jamais vu que ça, oui.
C'est vrai ?
Ben bien sûr, c'est vrai.
Est-ce que les vaches ont changé depuis votre enfance ?
Ah oui, sûrement. Je ne sais pas, moi, depuis une dizaine d'années, elles sont beaucoup plus grandes. Hein. Parce qu'avec la génétique, on essaye de toujours améliorer.
Elles ont pris combien de centimètres ?
10, 15 centimètres, oui. Oh oui, sûrement, même en longueur. Oui, oui, parce que nous, on a construit une salle de traite, on en mettait 5 il y a 8 ans. Bon, mais maintenant, 5, quelquefois, ne tiennent plus. Hein. On est obligé d'en mettre que 4. Hein.
Moi, je suis comme Marion Thibat, je ne comprends pas très bien la frisonne, qui est aussi la française frisonne. Vous allez nous dire que c'est plus la française frisonne. Moi, j'en étais resté à la flamande, ou peut-être à la normande. Expliquez-nous ce qui se produit sur le front des races des vaches.
Oui, en fait, c'est très compliqué, parce que les races modernes actuelles naissent au 19e siècle. Et elles se font soit par des inventions, on invente une race nouvelle, par exemple la charolaise, ou soit par la transformation de races locales comme la normande. Alors cette transformation, elle se fait du côté anatomique par une augmentation des tailles, mais il y a aussi tout l'aspect morphologique, ressemblance d'une race, puisqu'on passe à la race biologique, il faut que les individus se ressemblent. La plupart du temps, c'est par rapport à la robe, la couleur de la robe, la forme des cornes, etc. Or, ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que dans la même race, les caractères distinctifs ont pu évoluer. Par exemple, une vache normande en 1950, il faut à tout prix qu'elle ait les yeux entourés de noir. C'était un critère qui n'était absolument pas demandé 50 ans avant. Et donc tout ça varie sans arrêt, et c'est ce qu'on entend dans le reportage. Au bout d'un moment, beaucoup de gens n'arrivent plus à maîtriser.
Mais la domination de la Normande est passée à la française frisonne, qui est devenue Primolstein progressivement.
en même temps qu'on inventait les races, petit à petit, on les a rassemblées parce qu'on a inventé des races plus performantes au fur et à mesure des décennies. Et donc, on a abandonné les anciennes races ou on les a regroupées en une seule race. Et on les a croisés. C'est très compliqué, effectivement.
Surtout qu'il y a des spécialisations qui sont attribuées, mais qui peuvent, si elles évoluent à leur tour, perturber la vache. Prenons l'exemple de la Prime Holstein. Si on lui met un veau à côté, son veau...
Elle est très perturbée par la
présence. Parce qu'elle a été spécialisée dans le lait.
Elle a été spécialisée dans le lait, bien sûr, mais on l'a sélectionnée au niveau tempérament. Et là, c'est très net de voir comment, en 1820, lorsqu'on spécialise les vaches en vaches laitières, ce qui n'existait pas auparavant. Il y avait des vaches polyvalentes, mais pas de vaches spécialisées. Lorsqu'on retirait le veau à ces vaches, elles étaient perturbées, elles étaient traumatisées, elles se tarissaient. Et au bout de la chaîne, un siècle et demi, presque deux siècles après, maintenant, une Prime Holstein, si vous lui laissez son veau, elle est perturbée. Elle ne sait plus quoi faire de ce veau.
Mais alors si je suis plein de bonnes intentions et que je la mets sur sol, que je la nourris avec de l'herbe... Elle est perturbée aussi parce qu'elle a été habituée au grain.
Voilà, exactement. La Prime Holstein est une très bonne, c'est la Formule 1 des vaches laitières, si on peut dire. Elle produit énormément, mais elle a été façonnée pour être en atelier industriel, pour manger du grain, pour ne pas avoir de veau. Et dès qu'il y a quelque chose qui change avec les habitudes, elle est perturbée. Et effectivement, à partir des années 1990, les éleveurs ont voulu revenir à l'herbe parce que les grains commençaient à être trop chers. Et la Prime Holstein a été beaucoup perturbée par ça.
Descartes parlait des animaux-machines. Vous nous avez dit dans une précédente émission ce que cela signifiait. Éric Baraté, on peut parler de machines animales. Ces machines animales sont soumises à des machines alimentaires et logent dans des machines à habiter. Vous avez entendu, l'agricultrice de Thiérache se plaint que les vaches sont devenues si grosses qu'elle ne sait pas où les mettre dans son HLM.
C'est exactement ça. Il y a une histoire des bâtiments agricoles, hein, et notamment avec l'apparition des ateliers industriels à partir des années 1950, qui prennent un peu le contre-pied des vieilles étables. Les vieilles étables, il fallait, l'hiver, garder les animaux au chaud, ne pas faire entrer le froid, parce qu'on pensait que comme ça, les animaux profitaient mieux. Et à partir des années 50, au contraire, on a un peu la hantise des maladies, notamment de la tuberculose bovine. Et donc, on veut que l'air circule, on veut qu'il fasse frais, et il faut que les animaux s'habituent à tout cela. Et ces animaux qui évoluent en taille, en poids, en production, etc., il faut aussi que l'habitation s'adapte.
Si vous voulez bien, un petit instant de naturel, enfin est-ce du naturel, c'est la mascotte d'Edmond Audran. On passe maintenant à la basse-cour, le dialogue de la poule et des dindons, avec, vous reconnaîtrez peut-être sa voix, Ninon Valin.
Lorsque je plonge dans tes yeux, mes yeux, c'est curieux comme ça me ravigote.
Quand j'aspire l'odeur de tes cheveux, jusqu'au bout des doigts ça me picote.
Si tu t'approches de moi soudain, je tremble comme une petite poule.
Quand ma main rencontre ta main, crac, c'est fini, je perds la boule.
J'aime bien mes dindons.
J'aime bien mes moutons.
Quand il faut la redouble,
quand chacun de toi est
la marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Je crois que c'est bon. Voilà. Oh. Ah bon, je l'entends ventre.
Oh. T'entends le petit bruit.
Oui.
On n'a pas qu'un, à mon avis.
Oui, j'entends fort.
Oh, oui.
Oh, ma fifinette. Une petite fifinette toute triste. Hein? Oh là là. Mais ça va te passer. Hein? Ouais. Je sais, je suis pas gentille. Je suis pas gentille, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de sous. Donc j'ai besoin de faire des fromages.
J'ai besoin de sous, dit la mère de Sophie Audier, la cinéaste, qui a filmé les trois dernières années de sa mère dans un élevage de chèvres. Éric Baratel et chèvres, l'élevage du pauvre, direz-vous, dans les gorges du Verdon. J'ai besoin de sous, et elle va transmettre, la mère de Sophie Audier, à une jeune éleveuse, Anne-Sophie, non sans difficulté, sa très modeste exploitation, et c'est un arrachement pour elle. Parce qu'il y a une affectivité dans le métier d'éleveur.
Bien sûr, et il est très important de parler à ces animaux. Les paysans du début du 19e siècle qui transforment leurs vaches polyvalentes en vaches laitières l'ont très bien compris. Et ils ont très bien vu aussi que c'était entre les vaches et les femmes que ça se passait le mieux. D'où le fait que c'était souvent les femmes qui faisaient la traite. Et les éthologues actuels ont montré à quel point ce qu'on appelle le baby talk, parler enfant aux animaux, marche très bien. Les animaux comprennent bien mieux. Ça a été démontré pour les chiens et c'est évident aussi pour d'autres mammifères proches comme les chèvres, les vaches, etc. Parce qu'on utilise des mots simplifiés, une intonation et les animaux répondent bien mieux à cela.
Dites-moi, nous parlons maintenant de la mutation que connaît l'élevage dont vous décrivez là les tendances sentimentales anciennes, vous direz, les grands acteurs économiques rationnels, qui, eux, vont juste consentir un peu de BEA dans la chaîne économique de l'élevage qu'ils mettent en place et où aucun geste ne doit être inutile, ne faire perdre de temps. Alors, il faut peut-être les caresser, les animaux, parce qu'autrement, ça les met en état de stress. Mais c'est seulement pour ça qu'il faut les caresser.
Oui, parce qu'on a prouvé aussi que si on ne les caressait pas, si on ne leur parlait pas, la production baissait. Hein, donc, l'argumentation économique, évidemment, a été primordiale.
BEA, bien-être
alors,
animal.
Alors, le bien-être animal, en réalité, c'est plutôt le mal-être animal. On a commencé comme ça dans les années 80-90, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il fallait supprimer tout ce qui pouvait être cause de stress parce que, justement, ça diminuait la production. Le bien-être animal, c'est plus difficile à mettre en place parce que là, il faut comprendre les choix des animaux. Alors, ça se fait. Par exemple, il y a des expériences sur les modèles de litière, par exemple, où les vaches, on donne aux vaches différents types de litière à choisir et elles montrent qu'est-ce qu'elles préfèrent. Mais c'est très récent. Ce qui est quand même intéressant, cette introduction du BEA, c'est justement l'introduction d'une autre vision de l'animal dans une vision très rationnelle, très animal-machine, développée par les zootechniciens depuis le 19e siècle. Ils ont vraiment développé ce modèle de l'animal-machine, combien ça produit, tant de litres, tant de viande, tant de kilos, etc. Et on voit même de véritables équations au 19e siècle dans les ouvrages des zootechniciens pour dire qu'il fallait que la forme des pattes soit proportionnelle à la forme du torse, les cornes proportionnelles à la queue, etc.
Oui, mais il y a quand même eu un grand bond, peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, quand les éleveurs se sont convaincus qu'il fallait qu'ils rejoignent les comportements des citadins, qu'il fallait qu'ils obtiennent la même liberté qu'eux. C'est par la recherche de la liberté des éleveurs qu'on en est arrivé à la perte des comportements libres chez les animaux, puis d'ailleurs après chez les éleveurs.
Oui, la recherche de la liberté, puis aussi il y avait le problème de l'exode rural dans les années 50-60 qui fait qu'on avait beaucoup moins de main-d'œuvre, donc il a fallu mécaniser l'élevage pour pouvoir répondre à cette chute de main-d'œuvre. Et c'est vrai qu'on arrive à des situations un peu contradictoires. Par exemple, on veut des vaches laitières qui produisent de plus en plus, et en même temps, les éleveurs souhaitent des traites de moins en moins nombreuses. On a maintenant des éleveurs qui souhaitent ne traire qu'une fois par jour. Et là, ça, on rentre en contradiction totale avec des Primolstein qui auraient besoin, elles produisent tellement, elles auraient besoin d'au moins deux traites par jour, si ce n'est pas trois.
Mais quand le consommateur pense à l'usine à animaux, il pense évidemment par priorité à l'usine à cochons. Voici la ligne de défense d'un éleveur de porc. Et ensuite, un son que les habitués d'Orwell vont reconnaître.
Quand on voit ce genre d'élevage avec du ciment, à tout un appareillage de tubes d'aluminium, on se dit que ces pauvres malheureux cochons doivent être en peine de vivre, non?
Nous autres paysans, lorsque nous allons en ville, nous voyons également des HLM, et puis on se demande comment des gens peuvent vivre là-dedans. C'est la contrepartie du progrès, ça. Mais je crois que nous sommes arrivés là aussi à la limite du possible, quoi.
Cette nuit-là, justement, les animaux avaient convenu à l'unanimité de tenir un meeting dans la grange dès que Maître Jones aurait regagné ses pénates. Réunion secrète, bien entendu, présidée par le vieux major.
Mes chers frères, tout ce que nous produisons nous est enlevé. Pis encore, volé et vendu au profit de Jones. Vous, les porcs, vous savez parfaitement ce que l'avenir vous réserve. Héritons-nous un traitement aussi barbare? Cette ferme est-elle trop pauvre pour nous nourrir tous? Non, mes amis. Cette ferme est riche. Mais jamais nous n'obtiendrons de Maître Jones notre part légitime. Renversez le tyran, l'imposteur, et vous serez riche et libre. L'heure a sonné. Maintenant et à jamais, les animaux sont tous égaux.
La ferme des animaux, le film de John Halas, d'après le roman éponyme. Non, c'est pas à cause de la révolte des animaux que les textes commencent à changer. C'est à cause de la reconnaissance de la sensibilité des animaux.
Oui, bien sûr, c'est la loi de 1976 qui introduit la notion de sensibilité chez les animaux et qui a des répercussions, comme vous le dites, par le BEA, par le bien-être, et puis aussi par cette idée qu'il faut prendre en compte l'affectivité et le comportement même de l'animal. Mais les animaux résistent même. Lorsque on voit bien, par exemple, apparaître tous les problèmes qu'ils développent maintenant pour les Primelstein, qui ont des problèmes d'infertilité, on voit bien, comme ça a été dit dans le reportage pour les cochons, on arrive au bout d'un système. Et cette résistance, on la voit par deux siècles avant, lorsqu'on met en place les vaches laitières. Les paysans le voient bien, si on enlève leurs veaux, elles se tarissent, elles refusent de partager le lait. Il y a un phénomène de résistance. On est obligé de le prendre en compte. Et là, c'est ce qui est en train de se passer.
Il y a aussi un phénomène de résistance de la part de certains hommes, par exemple de certains hommes politiques, face à une généralisation qui serait excessive des droits qu'on reconnaîtrait aux animaux. Bon, Code pénal, 94, qui sanctionne certains comportements. Code civil, un amendement voté au début de 2015 et qui introduit justement la notion de sensibilité des animaux. Mais enfin, tout ça, ça reste en même temps flanqué du code rural, parce que c'est toujours le ministère de l'Agriculture qui entend avoir la main sur le sort des animaux.
Oui, il y a un conflit évidemment au niveau juridique entre les agriculteurs d'un côté, les écologistes de l'autre, les zootechniciens. L'agriculture et l'élevage est un peu pris entre plusieurs eaux. En même temps, je pense qu'il faudrait que les éleveurs fassent très attention à un phénomène récent, mais qui est en train de se développer à allure grand V, qui est celui du végétarisme, et qui est une réaction humaine à la condition des animaux en élevage industriel. Ça vient des pays anglo-saxons, c'est un phénomène de fond très très important. Et lorsque les gens seront convertis au végétarisme, ils ne reviendront pas à la viande.
Un éleveur dit « Les animaux, on ne peut pas les élever pour les garder. S'il n'y avait pas leur mort, il n'y aurait pas leur vie. Cependant, c'est difficile de les emmener à l'abattoir. Les emmène-t-il encore souvent à l'abattoir ?
De moins en moins, parce que en plus il y a des exigences au niveau du transport, parce qu'on s'est aperçu évidemment qu'un animal mal transporté stresse beaucoup, et donc ensuite il va générer des substances qui ne sont pas très bonnes ensuite à consommer pour les hommes, et donc il faut limiter au maximum le stress du transport, comme on essaye de limiter au maximum le stress de l'abattage. avec évidemment beaucoup de problèmes. On a vu le cas de l'abattoir d'Alès.
On va y venir, mais pour limiter le stress de nos auditeurs, nous avons flanqué un extrait du Sang des Bêtes, film bien connu de Franju, d'un refrain qui est beaucoup moins célèbre et qui date de 1950, de Bourvil.
C'est la brave fille des abattoirs, à la Villette il faut la voir, assister au dernier supplice, des pauvres taureaux, des pauvres génisses, au porc qui souffre avant sa loi, elle apporte un suprême espoir, viande à saucisse, pour que les riches y s'emplissent.
Dans l'ambiance assourdissante des treuils pneumatiques, les tueurs et ouvriers des chaudoirs travaillent entourés des vapeurs grises du sang des bêtes. Les outils de travail sont, suivant les animaux, le jonc ou roseau, le merlin anglais et le pistolet de Baer dont l'emporte-pièce foudroie à l'animal par percussion. L'introduction du jonc qui suit le canal médulaire a pour effet, en détruisant la moelle épinière, de supprimer les réflexes de l'animal. Maurice Grisel, ancien champion de France de boxe toute catégorie. L'animal mort est encore animé de réflexes, manifestation d'une vie purement végétative.
Je ne sais pas si je rassure les auditeurs en disant que ce qui est décrit là est antédiluvien, que la situation a beaucoup changé. C'était une époque où il y avait des centaines et des centaines d'abattoirs en France. Il en reste un peu plus de 300, je crois.
Mais au niveau des animaux, ça n'a pas tellement progressé depuis les années 60, hein, depuis le pistolet d'abattage. Ce serait, à mon avis, la chose à faire dans les dizaines d'années qui viennent, améliorer l'abattage, parce qu'on se rend bien compte que ça ne marche pas bien. L'abattoir d'Alès a bien montré...
Qu'est-ce qui s'est passé à l'abattoir d'Alès ?
Eh bien, que les animaux qui sont saignés, ils n'étaient pas anesthésiés, hein, ils étaient encore conscients. Or, l'abattage avec au pistolet a pour but de rendre inconscients ces animaux, mais ça marche très mal parce que les hommes ne maîtrisent pas forcément les techniques, il faut aller très vite, les débits sont très importants, les animaux résistent et donc il y aurait vraiment là de quoi moderniser totalement l'abattage, à condition évidemment de vouloir voir le problème en face. Or c'est un problème qu'on a évacué parce qu'on a évacué les abattoirs.
L'éloignement géographique des abattoirs ne permet pas de voir le problème en face. Je ne veux pas défendre les méthodes d'Alès.
C'est ce qu'on a voulu. On a voulu fermer les abattoirs pour ne pas voir effectivement ce problème de l'abattage des animaux qui devient un problème de plus en plus fort, qui date du 19e siècle, mais qui est de plus en plus croissant et qui entraîne de réactions très fortes. On a bien vu à Alès à quel point ça avait sensibilisé l'opinion. Mais parce que là, on est vraiment à la croisée entre une exigence zootechnique, économique, et puis une exigence morale.
On va pas terminer là-dessus, il faut que vous trouviez une péroraison, je ne sais pas, en forme d'oraison peut-être, Éric Baratet.
Ben, il faut espérer que l'élevage industriel ne détruise pas l'élevage tout court. Et la seule solution, et je pense que c'est l'avenir là aussi, c'est de faire un élevage de qualité, qui tourne le dos aux machines et aux usines à viande et aux usines à bêtes. Je crois que ce sera le seul moyen pour les éleveurs de s'en sortir, d'ailleurs.
Merci à vous, merci à Stéphane Ronxin qui a réalisé cette émission. Cette série a été préparée par Martin Cellier, avec aujourd'hui à la technique Elisabeth Collet.